Une authentique liberté chrétienne et biblique, la liberté de qualité dans l'œuvre du père Servé Pinkers. L'abbé François-Régis Jeannot a brillamment soutenu sa thèse en théologie morale au séminaire français de Rome en juin 2023. Il nous présente une partie de ses travaux dans cette conférence enregistrée le 17 février 2024 à l'abbaye de Belloc Habitat et Humanisme dans le cadre des samedis de Belloc proposés par la communauté de Belloc et Radio Lapourdi. Une authentique liberté chrétienne et biblique, la liberté de qualité dans l'œuvre du père Servé Pinkers. Nous écoutons l'abbé François-Régis Jeannot, docteur en théologie morale.
Dans cette conférence, donc, comme le titre l'indique, je vais vous présenter quelques réflexions sur la liberté. Donc, elles sont issues du doctorat que j'ai réalisé à Rome ces deux dernières années, donc c'est 476 pages. Alors rassurez-vous, je vais essayer de ne pas être trop compliqué, même s'il y a quelques moments où il faudra quand même s'accrocher un peu, et j'espère ne pas trop vous perdre. Et puis évidemment, vous vous en doutez, en 50 minutes de conférence, c'est inenvisageable de présenter tout ça, donc je ne vais pas pouvoir aborder tous les points. Mais je vais quand même essayer de vous présenter ce que le père Servet Théodore Pinkers appelle la liberté de qualité, puis vous présenter aussi qui il est. Et puis, je donnerai également quelques pistes pour voir en quoi cette liberté de qualité, on peut dire que c'est une authentique liberté chrétienne qui s'enracine dans l'enseignement biblique. C'est-à-dire une conception de la liberté qui a ses racines dans la Bible. Alors, j'ai commencé par une brève introduction, j'allais dire pour motiver un peu l'intérêt de se pencher sur un tel sujet. Et puis dans une première partie après, j'exposerai le plus simplement possible, avec des exemples et puis des images, ce qu'est la liberté de qualité dans l'esprit du père Pinkers. Puis ensuite, dans une deuxième partie qui sera assez dense, je vais esquisser quelques grandes lignes à propos de l'enseignement biblique sur la liberté. Et puis après, j'essaierai de faire une, en guise de synthèse, de voir en quoi le concept de liberté de qualité eh bien, conforme avec l'enseignement biblique sur la liberté, et donc en quoi on peut dire que la liberté de qualité est vraiment une authentique liberté chrétienne. Donc je commence avec l'introduction, avec cette question, qu'entend-on par liberté ? Donc vous le savez, le thème de la liberté traverse l'histoire de la pensée, parfois elle est exaltée, parfois elle est niée, et elle peut prendre plusieurs formes, cette liberté. Il peut y avoir la liberté morale, il peut y avoir la liberté religieuse, un sujet dont on a beaucoup parlé et dont on parle beaucoup, la liberté politique, ou encore tous les combats ou sur la liberté individuelle. Et donc, avant d'entreprendre une réflexion sur la thématique de la liberté, c'est nécessaire d'avoir conscience de toute la complexité de ces notions et de ces interprétations. Alors, ça n'empêche pas, pourtant, même s'il y a ces problèmes sur ce qu'est la liberté, que ce soit un mot qui soit fréquemment utilisé, sans qu'on cherche à savoir précisément à quoi renvoie ce concept. On le voit aujourd'hui dans les débats de société, dans les discussions des penseurs, sur Internet ou dans les grands médias, la liberté est souvent mise en avant dans des domaines très variés. On peut penser au domaine de l'éducation, on peut penser au rapport à la loi et à l'autorité, ou encore le problème de la santé publique, ou le domaine de la santé publique. Et je pense, ça, c'est un peu derrière nous maintenant, mais au débat qui avait été proposé qui a été provoqué par les mesures sanitaires prises par les États au long de la pandémie du Covid. Ce mot « liberté » est souvent apparu. Et on peut dire que notre société occidentale est vraiment contemporaine, est vraiment avide de ce mot de liberté. Alors je ne prends qu'un seul exemple concret, où le mot est sans cesse répété, et en France en particulier, par exemple, dans les débats sur la légalisation de l'euthanasie. Alors, le but, ce n'est pas de parler de l'euthanasie, mais de voir comment le mot « liberté » est utilisé. Et dans les débats sur l'euthanasie, on fait souvent appel à la notion d'ultime liberté, la liberté ultime. Et c'est ainsi que la proposition de loi numéro 288, donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, commence par ces lignes, je cite la proposition de loi. « Notre démocratie a su conquérir une à une toutes les libertés. Toutes, sauf une, l'ultime, celle qui nous concerne toutes et tous, c'est-à-dire la liberté de choisir sa mort. Alors la liberté est également au cœur de ce carême que nous avons commencé mercredi dernier. En effet, le message de carême 2024 du pape François s'intitule « À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté ». Et le pape développe une belle réflexion biblique et spirituelle sur la liberté. Et je me suis réjoui, en lisant ce message, de voir que le Saint-Père plaçait le carême sous l'égide de la liberté. Alors, qu'entend-on par liberté ? Quand le pape François utilise ce mot dans son message de carême, est-ce dans le même sens que dans la proposition de loi sur l'euthanasie que je citais plus haut ? Dans les deux cas, on parle bien de liberté. Et en ce sens, il y a plus de 30 ans, l'encyclique Veritatis Splendor, un monument de la théologie morale, l'encyclique Veritatis Splendor avait raison d'affirmer que, je cite, « les problèmes humains qui sont les plus débattus et diversement résolus par la réflexion morale contemporaine se rattachent tous, bien que de manière différente, à un problème crucial, celui de la liberté de l'homme ». Je ne vais pas détailler tout ça, mais quand on réfléchit à beaucoup de problématiques en bioéthique, j'ai parlé de l'euthanasie, mais on pourrait parler d'autres choses, dans des sujets plus actuels, la théorie du genre, etc. Derrière, à la racine, il y a quelle conception de la liberté a-t-on ? Qu'est-ce qu'on entend par liberté ? Alors évidemment, à nouveau, en vous parlant du terme de la liberté, j'ai conscience des multiples considérations que l'on pourrait faire et des divergences qui existent. C'est la raison pour laquelle, dans mon doctorat, et donc par conséquent dans cette conférence, j'ai décidé de me limiter au thème de la liberté en théologie morale catholique, donc dans un cadre bien défini, qui est celui de l'anthropologie théologique chrétienne. Et pourtant, même en se restreignant à ce contexte, où la liberté demeure une notion de premier plan, en théologie morale, la liberté, c'est fondamental, même en se restreignant à l'anthropologie théologique chrétienne, à la morale catholique, on se rend compte que la conception de la liberté n'est pas unique. Et il m'a donc semblé que notre époque, tout comme la recherche actuelle en théologie morale fondamentale, justifie que l'on se penche sur la notion de liberté, j'allais dire pour y voir un peu plus clair. Alors il se trouve que la liberté est un des thèmes centraux et fondamentaux de l'œuvre du théologien moraliste belge, Servais Theodor Pinkers, dont je vais maintenant vous donner quelques éléments biographiques pour que vous sachiez un peu qui c'est. Alors il est né à Liège, le 30 octobre 1925. Il décide d'entrer dans l'ordre des dominicains en 1945 et il fit ses études de théologie au Studium de la Sartre à Huy, je pense qu'on prononce comme ça, mais je ne sais pas trop, à Huy, en Belgique. Il est ordonné prêtre en 1951 et il obtient en 1952 sa licence de théologie. Sur le surnaturel chez Henri de Lubac, pour ceux à qui ça parle, c'est assez révolutionnaire d'avoir fait un mémoire de licence à cette époque-là sur le problème du surnaturel chez Henri de Lubac, juste pour ceux à qui ça parle. Il part ensuite à Rome et il poursuit ses études à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, ce qu'on appelle l'Angelicum, où il reçoit en 1954 son doctorat de théologie. Il a travaillé sur la vertu d'espérance de Pierre Lombard à Saint-Thomas d'Aquin, un sujet un peu technique. Puis, une fois qu'il a son doctorat, il retourne au Studium de la Sarthe, en Belgique, et il y reste jusqu'en 1965. Et au cours de cette période, il enseigne la théologie morale aux futurs dominicains, et il publie ses premiers articles sur le renouveau de la morale, qu'il regroupera ensuite dans son premier ouvrage, qui s'appelle « Le renouveau de la morale ». Derrière tout ça, il y a toute l'histoire de la théologie morale au XXe siècle, il y a beaucoup de choses et le père Pinkers a participé à ça, mais je ne rentre pas dans toutes ces considérations. Et puis suite à la fermeture du Studium de la Sarthe, il part au couvent des Dominicains de Liège, où il restera jusqu'en 1973. Donc tout ça, c'est la partie, on pourrait dire, belge de la vie du père Pinkers. Et c'est à cette date, en 1973, qu'il est appelé en Suisse, où il commence son enseignement à la faculté de théologie de Fribourg, comme professeur de théologie morale, jusqu'en 1997. Il a également été membre de la Commission théologique internationale à Rome, de 1992 à 1996. Et la période fribourgeoise du père Pinkers est marquée par la publication de son œuvre majeure, les sources de la morale chrétienne en 1985. C'est ce gros livre jaune qui est un peu impressionnant parce que ça doit faire dans les pas loin de 500 pages. Il y a une version un peu plus courte qui publiera en 1991. Que je recommande pour ceux qui voudraient lire du Père Pinkers. On perd jamais son temps à lire le Père Pinkers, je crois, qui s'appelle La morale catholique. Hélas, difficilement trouvable aujourd'hui, mais dans les la plupart des bibliothèques, on le trouve. Voilà, La morale catholique. Et puis, il est décédé le 7 avril 2008, donc il a connu le 21e siècle, et il repose aujourd'hui au couvent de l'Albertinum, donc c'est le couvent des Dominicains qui est à Fribourg. Donc voilà un peu pour savoir qui était le père Pinkers, donc un grand moraliste de la fin du XXe siècle qui a participé à beaucoup de débats dans cette période un peu agitée pour l'histoire de la théologie morale. Alors je le disais, la liberté est un des thèmes majeurs de l'œuvre du père Pinkers, et pour être plus précis, il a développé le concept de liberté de qualité, qu'il appelle encore liberté de perfection ou liberté d'excellence. C'est plutôt dans le début de sa vie, quand il est en Belgique, dans ses premiers articles, où il parle plutôt de liberté de perfection et de liberté d'excellence. Et puis à partir du moment où il arrive en Suisse, en tout cas dans ses écrits, c'est plutôt à ce moment-là qu'il commence à parler de liberté de qualité. Et pour le dire simplement, dans le vocabulaire du père Pinkers, la liberté de qualité est opposée à ce qu'il appelle la liberté d'indifférence. Et c'est ce qu'on va essayer de voir un peu plus précisément de quoi il s'agit maintenant dans la première partie sur la liberté de qualité dans l'œuvre du père Pinkers. Voir ce que ça veut dire liberté de qualité et voir ce que ça veut dire liberté d'indifférence. Alors avant de me lancer dans des éléments un peu techniques, je vais commencer par prendre une analogie très, peut-être un peu trop, basique pour comprendre le fondement de l'anthropologie chrétienne. Donc on peut dire qu'il y a deux facultés spirituelles en nous, l'intelligence d'un côté, on peut dire la raison aussi, il y a des petites nuances, mais l'intelligence ou la raison, et puis de l'autre côté, la volonté. Et les deux interagissent, et c'est ça qui va nous permettre de réaliser une action. Intelligence et volonté, mais aussi en lien étroit avec ce qu'on appelle dans le vocabulaire classique de la théologie morale les passions. C'est un mot qui est un peu piégé en français, on pourrait dire avec les sentiments, les émotions, les réactions affectives qu'on a tous, et en lien aussi avec notre corps. Hein, c'est pas juste une question d'intelligence et de volonté, c'est tout l'être humain qui va participer à l'agir moral, qui va participer à l'acte. Je reviens juste surtout sur la notion d'intelligence, de raison, et puis de volonté. Et c'est là où c'est un peu basique, on pourrait faire la comparaison avec une voiture. On peut dire que, on est plus qu'une voiture, mais c'est pour comprendre. On peut dire que la volonté, c'est comme le moteur de la voiture, et que la raison, c'est comme le volant, l'accélérateur et le frein, grâce auquel on va pouvoir conduire la voiture dans la bonne direction. Le corps, on pourrait dire, c'est l'ensemble de la mécanique, c'est ce qui va permettre que la voiture roule. Alors bien sûr, il y a des limites à cette image, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais c'est pour comprendre un peu de quoi il s'agit. On voit bien que dans une voiture, s'il n'y a pas de moteur, donc s'il n'y a pas de volonté, la voiture n'avance pas. Et le volant ou le frein ne servent à rien. Et s'il y a un moteur, mais qu'il n'y a pas de volant, d'accélérateur ou de frein, donc s'il n'y a pas de raison, d'intelligence, on ne va pas pouvoir conduire la voiture, et si on la conduit, on risque de finir dans un mur, si on utilise juste le moteur et qu'on laisse faire tout ça. Donc voilà, intelligence et volonté, le moteur, et puis ce qui va donner la direction et qui va permettre soit d'accélérer, soit de freiner. Et la liberté, comment on la situe dans tout ça ? Alors on pourrait dire de manière analogique, hein, là aussi c'est pas tout à fait juste, mais de manière analogique, que la liberté c'est le conducteur. Et puis il y a deux possibilités. Soit le conducteur monte dans la voiture et décide de l'utiliser sans respecter le manuel d'utilisation, sans avoir le permis, en s'affranchissant du code de la route, on pourrait dire en s'affranchissant de la loi, un mot important, et on se doute que s'il fait ça, ça risque de mal terminer. Le conducteur s'affranchit de la bonne utilisation de la voiture. Et cela revient à dire dans cette comparaison que la liberté est placée avant la raison et la volonté. C'est le conducteur qui monte dans la voiture et puis qui en fait ce qu'il veut. La liberté qui est placée avant l'intelligence et la volonté. Autrement dit, la liberté est antérieure à la raison et à la volonté. La liberté précède l'intelligence et la volonté. Et cette conception de la liberté, c'est ça que le père Pinkers appelle la liberté d'indifférence. L'autre possibilité, c'est de dire que la liberté, c'est le conducteur qui a son permis, qui sait utiliser la voiture, qui connaît le code de la route, qui connaît la loi, et donc qui utilise son intelligence et de sa volonté, et qui va se servir de la loi comme d'un guide qui va lui permettre d'aller loin. Le conducteur se sert à bon escient de la voiture, et dans ce cas, il pourra par exemple se rendre à l'abbaye de Belloc pour écouter une conférence. Et cela revient à dire, dans cette comparaison, que la liberté, elle est placée après la raison et la volonté. Hein, il y a d'abord la voiture avec tout son fonctionnement, et j'utilise ça, j'utilise le code de la route, j'utilise tout ça pour être libre dans le sens où je vais pouvoir aller là où je veux et pas finir dans un mur. Et donc l'intelligence et la volonté, cette fois-ci, elles sont placées avant la liberté. Autrement dit, la liberté est postérieure, la liberté est après la raison et la volonté. La liberté procède de l'intelligence et de la volonté. Et c'est cette conception de la liberté que le père Pinkers appelle la liberté de qualité. Alors, j'espère que vous me suivez. L'important dans ces deux, je reprends, hein, l'important entre ces deux conceptions, c'est la place de la liberté, avant ou après la raison et la volonté. Si je reprends ça de manière un peu plus technique, en laissant de côté l'image de la voiture, mais c'était pour mettre un peu les choses en place, selon le père Pinkers, le point de départ des deux conceptions de la liberté, à peine évoquées, donc la liberté d'indifférence et la liberté de qualité, réside dans l'interprétation qui est faite de la première partie de la définition du libre arbitre par Pierre Lombard au milieu du XIIe siècle dans ses Sentences des Pères. Donc il faut se rendre compte que ça, c'est les Sentences de Pierre Lombard, c'est on pourrait dire un manuel de référence à l'époque dans les études de théologie. Donc ça fait foi, ça fait référence. Et dedans, il y a une définition du libre arbitre par Pierre Lombard au XIIe siècle. Et c'est la manière dont on interprète cette définition qui va conduire aux deux libertés possibles. Je vous lis cette définition de Pierre Lombard dans son livre des Sentences. Le libre arbitre est une faculté de la raison et de la volonté. Une faculté de la raison et de la volonté par laquelle est choisi le bien avec l'assistance de la grâce ou est choisi le mal avec l'abandon de la même grâce. Il y a deux interprétations qui sont possibles dans une faculté de la raison et de la volonté. Parce que quand on dit une faculté de la raison et de la volonté, on dit il y a les deux à la fois, mais ça ne nous dit pas où est-ce qu'on place, j'allais dire, la liberté par rapport à la raison ou à la volonté. Soit on la place en amont, la liberté, soit on la place en aval de la raison et de la volonté. Alors dans la première interprétation, je redis ce que j'ai déjà dit avec la voiture, mais cette fois-ci avec les termes plus correct, plus technique. Donc dans la première interprétation, qui est celle de la liberté d'indifférence, la liberté précède la raison et la volonté. Il y a d'abord la liberté, avant tout, et après la raison et la volonté. Donc le libre arbitre, la liberté, ici quand je dis libre arbitre, liberté, on va dire que c'est la même chose. Le libre arbitre met en mouvement la raison et la volonté, parce qu'il est possible de choisir librement, par exemple, de connaître ou non, de vouloir ou de ne pas vouloir, d'agir ou de ne pas agir. C'est le primat de la liberté. Alors d'après le père Pinkers, c'est la conception d'un franciscain, Guillaume d'Ockham. On est en 1285-1347, c'est la conception de la liberté de Guillaume d'Ockham. Mais c'est une interprétation qui était déjà connue, c'est des petits détails pour ceux qui aiment ça, de l'école franciscaine au XIIIe siècle, comme en témoigne déjà Saint Bonaventure. Ce qui est important, c'est que la liberté est première. La liberté, elle est posée comme un postulat non démontrable. Elle est un fait premier de l'expérience, une sorte de primat de la liberté. Ce que je vous ai dit avec le conducteur, hein, le conducteur qui arrive avant toute chose, et puis le reste, c'est la liberté qui choisit. Et le père Pinkers, je l'ai dit, appelle ce libre arbitre liberté d'indifférence. Il la définit comme le pouvoir de choisir entre les contraires, entre le oui et le non, le bien et le mal, indifféremment. Hein, la liberté qui est avant et le choix de tous les possibles doit être devant cette liberté qui a le primat. Et donc dans cette conception, le choix entre le bien et le mal appartient à l'essence même de la liberté. Si je le dis un peu rapidement, c'est souvent la conception que l'on a en tête quand on parle de liberté. Être libre, c'est pouvoir faire ce que je veux et avoir le choix le plus grand possible entre tout ce qu'il y a de possible, justement. Mais il y a une deuxième interprétation, encore une fois, de la définition de Pierre Lombard, c'est de dire que la liberté procède de la raison et de la volonté, qu'elle suit la raison et la volonté. Pour le dire un peu mieux, la raison et la volonté se réunissent ensemble pour poser l'acte du choix. Et en comparaison avec la liberté d'indifférence, il y a un renversement des rapports. Alors, selon le père Pinkers, c'est ainsi que saint Thomas, s'inspirant d'Aristote, conçoit la liberté, dans l'éthique à Nicomaque, par exemple, pour Aristote. Donc pour saint Thomas, en effet, le libre arbitre n'est pas une faculté première. Il n'y a pas en nous une raison, une volonté et une liberté. Le libre arbitre présuppose l'intelligence et la volonté. Donc il faut que d'abord que ça soit là pour qu'il puisse y avoir la liberté. Et donc le libre arbitre s'enracine dans les inclinations qu'il y a en nous à la vérité et au bien. Autrement dit, le libre arbitre, la liberté, est un pouvoir qui est dérivé des deux facultés spirituelles, de l'intelligence et de la volonté, et qui est inspiré par les inclinations à la vérité, au bien et au bonheur. Et c'est ce que le père Pinkers appelle la liberté de qualité, qu'il définit comme, je cite, un pouvoir d'accomplir des actions qui ont qualité, d'où liberté de qualité, un pouvoir d'accomplir des actions qui ont qualité de vérité et de bien, même s'il lui arrive de défaillir et de mal faire. Il nous arrive de mal faire les choses. Voilà la définition du père Pinkers. Donc c'est une liberté qui permet d'agir avec perfection, quand on le veut, et le choix du mal, ça sera une déficience de la liberté. Autrement dit, le choix du mal n'appartient pas de manière essentielle, de manière essentielle à ce qu'est la liberté. Et c'est une liberté qui est orientée vers le bien. Je vais revenir un peu là-dessus après, mais la liberté d'indifférence, vous voyez, il faut que le choix des possibles soit le plus grand possible pour qu'il y ait vraiment cette liberté d'indifférence à l'état chimiquement pur, j'allais dire. Alors que la liberté de qualité, elle est déjà orientée par quelque chose, parce qu'il y a déjà l'intelligence et la raison qui sont là, et elle est orientée vers le bien. Alors pour mieux illustrer, c'est un peu technique et théorique tout ce que je dis là, mais pour mieux illustrer ce qu'est la liberté de qualité et la liberté d'indifférence, on peut prendre deux exemples concrets que le père Pinkers lui-même prend dans les sources de la morale chrétienne. L'une dans l'étude de la musique et l'autre dans l'étude d'une langue étrangère. Alors je commence avec l'apprentissage d'un instrument de musique. Dans l'exemple de l'apprentissage d'un instrument de musique, comme le piano, l'analogie avec la liberté d'indifférence, ça consisterait à frapper indifféremment, de manière arbitraire, telle ou telle note. Hein, ou dans l'exemple que je prenais avant avec la voiture, on arrive et puis on se sert n'importe comment de la voiture. Ben ici, dans le piano, on est libre, on fait ce qu'on veut, et donc je touche toutes les notes telles que je veux, liberté d'indifférence. C'est une liberté qui est rudimentaire, qui est sauvage, et qui au fond cache la capacité de jouer comme il faut des pièces, même les plus faciles, et en évitant les fautes. J'ai pris le piano, mais j'aurais pu prendre l'orgue pour un contexte plus ecclésial. Inversement, le bon musicien, enfin j'ai pris le piano parce que c'est l'exemple du père Pinkers. Inversement, un bon musicien qui maîtrise l'art du piano, voire l'artiste ou le virtuose, il jouit d'une autre sorte de liberté, celle de jouer comme il convient, toute pièce qu'il veut, voire même d'en composer de nouvelles. C'est la liberté du bon pianiste, du bon organiste, et qui a les caractéristiques suivantes. Je cite le père Pinkers. Au plan musical, cette liberté peut se définir comme un pouvoir lentement acquis d'exécuter avec perfection les œuvres qu'il veut au musicien. Cette liberté repose sur des dispositions naturelles, sur un talent devenu ferme et stable par l'exercice régulier et progressif. Et c'est important de remarquer que l'acquisition de cette aisance requiert plusieurs conditions, sans lesquelles la perfection ne sera jamais atteinte. Il faut évidemment des prédispositions préalables, une inclination pour la musique, avoir de l'oreille, etc. Il faut aussi des efforts, la soumission à la contrainte qui est imposée par les leçons et les exercices d'apprentissage, ainsi que le recours à un professeur de musique, qui devra parfois obliger l'élève à se mettre au piano, ce qui, du point de vue de l'élève, prendra le caractère d'une obligation. Donc voilà, pour l'exemple du piano, entre liberté d'indifférence et liberté de qualité. Je prends maintenant l'exemple de l'apprentissage d'une langue étrangère. L'analogie avec la liberté d'indifférence, ça consisterait à utiliser les mots de la langue étrangère comme on le souhaite, sans se préoccuper des règles de grammaire ou du vocabulaire. Encore une fois, comme la voiture que je prends, et je m'affranchis du code de la route, des limitations du moteur, du frein, etc. Voilà. Donc là, j'utilise les mots de la langue étrangère comme je le souhaite, sans me préoccuper des règles ou du vocabulaire. Inversement, qui maîtrise une langue étrangère possède une autre liberté. Je cite le père Pinkers. C'est une liberté soumise à la contrainte des règles, sans doute, mais elle est beaucoup plus réelle et s'appuie sur ces règles mêmes pour se déployer. C'est proprement une liberté de qualité, car elle nous fait comprendre et parler à la perfection. Et cette liberté, ça c'est moi qui continue, réside notamment dans la capacité de pouvoir éviter les fautes sans même y faire attention. Comme dans l'exemple précédent de l'instrument de musique, l'acquisition de cette aisance ne se fait pas sans un minimum de disposition au départ, sans persévérance dans l'effort, sans avoir suivi des cours de langue, sans être allé faire un séjour dans le pays où la langue est parlée, ni sans les contraintes propres à toute langue. Enfin, cette aisance de celui qui parle parfaitement une langue étrangère s'accompagne du plaisir de s'exprimer et de se faire comprendre sans la moindre difficulté. Donc à partir de tous ces exemples que j'ai donnés, de toutes les explications que j'ai faites, je vais maintenant essayer de tirer, de manière un peu synthétique, quelles sont les grandes caractéristiques de la liberté de qualité, et je vais faire le parallèle avec la liberté d'indifférence. Donc je le redis, la liberté de qualité se définit comme le pouvoir d'agir avec qualité et perfection quand on veut. Et la plénitude de la liberté de qualité réside dans la fermeté de l'amour du bien. Et, on est en théologie, une telle liberté appartient de manière première et excellente à Dieu, qui est la source première de tout bien et de toute liberté. Je l'ai déjà dit, je le redis, au niveau anthropologique, au niveau de l'être humain, la liberté de qualité procède de la raison et de la volonté conjointe. Elle n'est pas mise en avant. Et elle s'enracine dans ses inclinations naturelles vers le bien, la vérité, la conservation de l'être, la transmission de la vie et la vie en société. Quand je dis inclination naturelle, c'est un terme qui vient de saint Thomas d'Aquin et qui remonte un peu plus loin. Le père Pinkers définit ça comme une espèce de spontanéité spirituelle en nous. La recherche de la vérité, par exemple, le fait de vouloir aussi rechercher le bien, notre bonheur, de la transmission de la vie, vouloir se conserver dans l'être, ce qu'on fait quand on mange et qu'on boit, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont en nous, des inclinations qu'il y a et qui nous sont données, j'allais dire, à la naissance. C'est ça qu'on appelle les inclinations naturelles. Il y a tout un débat là-dessus, mais je ne rentre pas dans toutes ces considérations-là. Donc voilà, donc ça c'est pour la liberté de qualité, qui procède de la raison et de la volonté, et qui s'enracine dans ses inclinations naturelles. Elle va se servir de ses inclinations naturelles comme d'un guide. Au contraire, la liberté d'indifférence va exclure les inclinations naturelles en les soumettant au choix. Comme la liberté doit avoir un primat, tout ce qui va s'opposer à cette liberté, tout ce qui va faire obstacle à cette liberté, eh bien, on va vouloir l'exclure. Donc par exemple, je prends qu'un seul exemple qui est un peu facile à dire, mais voilà, quand on dit dans la théorie du genre la différence entre le genre biologique et puis le genre qu'on peut choisir, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est donné par, mettons, la nature ou le corps qu'on a à la naissance, et puis on va décider que la liberté a un primat et que c'est elle qui va pouvoir dire si je suis un homme, une femme, indépendamment de ce que je suis. Je ne rentre pas dans ces considérations-là, mais juste pour vous dire que, ce que je disais plus haut, que derrière, c'est des problèmes de liberté, de la manière dont on... C'est pour ça que c'est important de faire de la morale fondamentale et pas juste d'être dans toutes les questions techniques de bioéthique ou etc. C'est de voir quels sont les problèmes au fond, et enfin, en tout cas, les conceptions qu'il y a au fond, sans parler de problèmes. Et vous voyez que derrière, c'est des questions d'anthropologie, comment est-ce que je considère un être humain, etc. Et comment je considère la liberté. Il y a des très beau texte qui existe là-dessus. Le cardinal Ladaria, en juin dernier, avait fait un très beau texte juste pour montrer ce lien de la liberté, sur la liberté avec les problèmes actuels de théologie morale. Donc voilà, autre caractéristique de la liberté de qualité, elle est donnée en germe au départ de la vie morale, Donc c'est quelque chose qu'il va falloir cultiver, qu'il va falloir faire grandir. Alors que la liberté d'indifférence, avec son primat dont je parlais, elle va être posée entière, de soi, dès le départ. Et dans tout acte de ma vie morale, la liberté sera pleine et entière. Donc, contrairement à la liberté d'indifférence, qui ne va pas nécessiter de formation ni de progrès, elle est là, pleine, entière, depuis le jour où je suis né. Au contraire, la liberté de qualité, elle va nécessiter un développement progressif par l'éducation, d'étape en étape, jusqu'à la maturité. Alors, le père Pinkers distingue trois étapes qu'il ne faut en fait pas trop séparer. Une première étape, qui est l'étape de la discipline, le moment où tout ce qui est fait pour notre bien, on le ressent comme une contrainte. Ce que je prenais avec l'exemple du pianiste ou avec l'exemple de l'apprentissage, la grammaire, au début on se dit ces règles qui sont là, qui vont me contraindre. Non, elles sont au final pour pouvoir parler librement. L'étape de la discipline, et le père Pinkers dit que le texte de l'Écriture sainte qui correspond à cette étape, c'est le décalogue, les commandements, les 10 commandements. Donc voilà, vécu comme quelque chose qui va venir s'imposer un peu à ma liberté, alors qu'en fait c'est pour grandir. L'étape de la discipline, qu'on a tous vécu. La deuxième étape, c'est l'étape du progrès personnel et de la formation à la vertu. Je vais commencer à me rendre compte qu'en fait, en agissant comme ça, c'est pour mon bien et que ça me permet de grandir en liberté. Et je ne rentre pas dans toutes ces considérations, mais le texte de l'Écriture sainte auquel le père Pinkers rattache cette étape du progrès, c'est le sermon sur la montagne, c'est l'évangile de saint Matthieu, les chapitres 5 à 7. On en a lu un extrait mercredi dernier avec le mercredi des cendres, Matthieu 6, sans le Notre Père, mais voilà, le sermon sur la montagne. Je ne rentre pas dans tout ça, c'est passionnant, mais je ne peux pas développer ça. Et puis la troisième étape, qui est en fait jamais terminée, c'est l'étape de l'âge adulte et de la maturité, de la liberté, et le père Pinkers relie ça, alors c'est pas grave si vous comprenez pas, à la doctrine thomiste de la loi nouvelle. Bon, il faudrait dire ce que c'est que la loi nouvelle, expliquer pourquoi saint Thomas parle de ça, etc. Bref, mais il lit ça à la loi nouvelle, en gros à la grâce de l'Esprit Saint qui va venir agir en nous. C'est plus compliqué que ça, mais pour le dire simplement. Une autre propriété de caractéristique de la liberté de qualité, c'est qu'elle va réunir tous les actes qu'on a, tous les actes qu'on fait, hein, l'ensemble des actes de notre journée, d'un mois, de 10 ans, depuis le début de notre naissance, elle va les ordonner ensemble par la visée d'une fin, donc il y a un but, et c'est l'intention qui va relier intérieurement tous ces actes et qui va les inscrire dans la durée. Je prends un exemple pour que ça soit un peu plus concret. Je décide, quand je suis petit, j'ai envie de devenir, ingénieur. Bon, ben, je vais me donner au médecin, je vais me donner les moyens pour devenir médecin. Et donc, je vais décider de faire un bac scientifique, puis de faire une école de médecine, puis je vais choisir ma spécialité ou généraliste, etc. Il y a des tas de choix qui sont faits, et il y a une fin commune qui est « je veux devenir médecin ». Et donc, chaque petit choix-là va être, si vous voulez, englobé, ordonné, intégré, en fonction de la fin que je me suis proposée, qui est celle d'être médecin. De manière plus générale, puisque être médecin ou autre, c'est très bien, mais ce n'est pas le tout de la vie, en théologie chrétienne en tout cas, la fin principale qui va venir relier tous ces actes, c'est le bonheur qu'on cherche ici-bas. Réfléchissez à tous les actes que vous faites depuis que vous êtes né, d'une manière ou d'une autre, vous cherchez le bonheur. Mais au-delà de ça, au-delà du bonheur, c'est l'union au bonheur plénier, la vision béatifique, en langage technique, le ciel. Donc en fait, le fait de chercher le bonheur éternel, dans cette vision-là de la liberté de qualité, va permettre de donner une ligne, j'allais dire, à l'ensemble de notre vie, et tous les choix qu'on va faire vont être en fonction de ça. Notre manière de le dire, le père Pinkers ne dit pas ça comme ça, mais si on cherche la sainteté, on a un but qui est d'être avec Dieu au ciel, et donc tout ce qu'on fait va viser ça. Dans ce cadre-là, bon, il y a toute la morale des vertus qui est là-dedans, je ne rentre pas dans ces détails. Inversement, pour la liberté d'indifférence, chaque acte doit être le plus libre possible. Donc l'idée de viser une fin, ça restreint. C'est, pour le dire de manière un peu plus simple, choisir, c'est renoncer. Si je décide d'être médecin, tous les autres métiers, je ne pourrais pas les faire. Donc je suis moins libre. Si je décide de me marier, j'aurai qu'une seule femme et je n'aurai pas toutes les autres. Donc je renonce à tout ça, etc., etc. Donc ça, la liberté d'indifférence, elle n'aime pas. Il faut toujours que le choix des possibles soit le plus grand possible. Et donc on va refuser de s'engager pour pouvoir avoir toujours cette possibilité d'être libre. Et idéalement, chaque acte qu'on va poser dans notre vie devrait être le plus libre possible, donc séparé de ce que j'ai fait avant. encore une fois la notion d'engagement, et dans la durée. Chaque instant de notre vie devrait être le plus libre possible, comme si on faisait table rase de ce qu'il y avait avant et table rase de ce qui viendrait après. Évidemment, il n'y a plus du tout de finalité. Hein, le but, c'est d'être le plus libre possible. Et la notion de bonheur disparaît dans ces cas-là. Ce qui compte, c'est le primat de la liberté. Un autre lien important, c'est le lien entre la liberté et la loi. Donc, dans la conception de la liberté de qualité, la loi, ça va être une aide nécessaire au développement de la liberté en connexion avec l'attrait qu'on a pour la vérité. Je le disais, la loi, elle est particulièrement nécessaire dans la première étape de l'éducation où elle va éduquer la croissance de la liberté. Puis elle va s'intérioriser progressivement grâce aux vertus de justice et de charité, mais pas que. Encore une fois, un exemple pour comprendre ça, je reprends mon histoire de voiture, le code de la route, soit on prend ça comme une contrainte, ça peut parfois l'être, mais enfin, soit on prend ça comme une contrainte, soit on se dit c'est pour que tout le monde puisse rouler sur la route et aller là où il veut, à la surface de la planète. Donc la loi est un guide qui vise le bonheur et la liberté de tous les automobilistes, et donc il vaut mieux la respecter. Et au lieu de devenir une contrainte, ça devient quelque chose qui me rend plus libre dans la vision de la liberté de qualité. Et pareil pour toute loi. Pour la liberté d'indifférence, au contraire, la loi apparaît comme une contrainte extérieure et une limitation de la liberté par l'obligation. Je suis obligé de rouler à 80 alors que je voudrais aller à 250, ça me limite. Et donc, encore une fois, c'est pas forcément une envie personnelle. Et donc, du coup, on voit la loi comme quelque chose qui vient me limiter. Au lieu de voir la loi comme quelque chose qui nous aide, qui nous guide, c'est quelque chose qui va nous brimer, qui va nous empêcher d'être libre. Encore une fois, réfléchissez au code de la route. Dans une optique de la liberté d'indifférence, c'est un frein, c'est quelque chose qui m'empêche d'être libre. Je ne peux pas aller partout, je ne peux pas faire ce que je veux. J'ai des limites que sont la loi civile qu'est le code de la route, alors que dans la liberté de qualité, grâce au code de la route, je peux me déplacer partout. Voilà, et donc du coup, la liberté va devoir s'incliner devant le commandement et les obligations. Une autre image que j'aime bien prendre, c'est l'avion qui atterrit de nuit. Je ne suis pas pilote de ligne, j'espère que je ne dis pas de grosses bêtises, mais il y a toutes les petites lumières de la piste pour qu'ils sachent dans quelle direction aller pour pouvoir atterrir. La loi, on peut la voir comme, enfin, j'aime bien la voir, ce n'est pas le père Pinkers qui dit ça, c'est moi, on peut la voir comme ces petites lumières sur la piste qui permettent à l'avion de savoir où il en est. Il y a même des lumières qui permettent de savoir si on attaque avec le bon angle, si on est à la bonne hauteur par rapport à la piste. Ça me guide, la loi, c'est ça qui va me guider. Ou alors on peut se dire, ça me contraint toutes ces petites lumières et cette direction, j'ai envie d'aller où je veux avec mon avion et de voler de mes propres ailes, mais ça risque de finir au crash quand on va atterrir. Voilà. Et donc enfin, la dernière chose sur la liberté de qualité, c'est que c'est une liberté qui est ouverte, qui va prendre toutes les facultés de l'homme, donc y compris nos passions, y compris le corps, etc. Voilà pour en gros ce que c'est que la liberté de qualité. Alors juste un dernier point important, et ça va nous occuper pour la fin. Donc pour le père Pinkers, la liberté de qualité, donc là vous voyez j'étais un peu théorique, on a fait de l'anthropologie, on était proche de la philosophie, voilà c'est un peu technique. Dans le titre de la conférence il y a quand même la Bible. Et donc point important pour le père Pinkers, la liberté de qualité se prête à une relation avec l'ensemble de l'écriture. Donc de la description que je viens de faire de toutes les caractéristiques de la liberté de qualité, confrontée à la liberté d'indifférence, une question peut jaillir. Elle concerne les racines bibliques de la liberté de qualité. Donc comme je viens de le dire, de le suggérer en tout cas, le père Pinkers affirme sereinement dans ses ouvrages, à plusieurs reprises, que, je cite, « la conception de la liberté de qualité paraît beaucoup plus convenable à l'élaboration d'une théologie de la liberté conforme à l'Écriture ». Donc lien liberté de qualité et écriture. Et en fait, cette affirmation ne va absolument pas de soi. D'où cette question fondamentale que l'on peut se poser et que je me suis posée, entre autres là-dedans, dans mon doctorat. La liberté de qualité est-elle en cohérence avec une théologie de la liberté conforme à l'écriture? Mais voyez que répondre à cette question, ce n'est pas direct ni facile, sinon on n'en ferait pas un doctorat, car qu'entend-on par liberté dans l'écriture? L'ensemble de l'écriture parle-t-il de liberté? Donc, pour répondre à la question que je pose sur le lien entre liberté de qualité et liberté dans la Bible, il faut d'abord étudier et présenter ce qu'est l'enseignement biblique sur la liberté. Alors, en fait, ça, c'est pas facile à faire. Alors moi, je ne suis pas bibliste, je suis moraliste, mais quand je me suis penché sur cette question en licence déjà, j'imaginais un peu naïvement, comme on trouve pour d'autres concepts, qu'il y avait un petit livre, La liberté dans la Bible. Il n'y a pas de petit livre ni en français, ni en anglais, ni en espagnol, ni en italien, en tout cas pas comme ça, qui s'appelle La liberté dans la Bible. Il y a plein de machins, de livres qui existent sur je ne sais quoi dans la Bible. Il n'y a pas la liberté dans la Bible. Donc c'était un peu compliqué tout ça, et j'ai décidé... pas tout seul, mais avec mon directeur de thèse, de me baser sur le dernier document de la commission biblique pontificale qui s'appelle « Qu'est-ce que l'homme ?», un itinéraire d'anthropologie biblique. Ça tombait bien, anthropologie biblique, avec ce que je faisais en anthropologie, en morale, ça marchait bien. Je ne me suis pas limité à ça. Il y a aussi beaucoup d'autres auteurs que j'ai consultés, des biblistes et des moralistes. Donc là, ça va être... c'est déjà dense, ça va être un peu un résumé de l'enseignement biblique sur la liberté. C'est-à-dire s'il y avait deux pages à faire sur l'enseignement biblique sur la liberté, ben c'est ces deux pages que je vais vous exposer maintenant. Donc d'abord, on peut affirmer que l'ensemble de la Bible propose un enseignement sur la liberté. Il y a un large panorama de notions qui excède largement les quelques occurrences du mot « liberté » dans la Bible. D'ailleurs, il n'y a pas de mot hébreu pour dire liberté. Et si vous cherchez le mot liberté dans le Nouveau Testament, eleutheros, et puis les dérivés, il y a, je ne sais plus combien exactement, mais une vingtaine, 25, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai les chiffres dans un coin. Mais très peu. Donc si on regarde juste ça, on ne va pas très loin. Et pourtant, l'ensemble de la Bible parle de la liberté, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors je vais juste m'arrêter à trois couples de notions, le lien entre liberté et loi dans la Bible, qui est un vaste sujet, le lien entre liberté et le bien, le mal, et le lien entre la liberté et le salut. Donc en ce qui concerne les liens entre la liberté et la loi, je retiens que dans la tradition biblique, et spécialement dans le cadre de l'Alliance, le commandement, donc le commandement qui est donné par Dieu, suit toujours un don. Il y a d'abord un premier don qui est fait par Dieu, et ensuite il y a un commandement qui est un peu un mode d'emploi. On pourrait dire la grammaire du don, comme dit un exégète, c'est mieux dit, mais j'allais dire c'est le mode d'emploi. Je te donne quelque chose, un don initial que Dieu donne. Je ne vais pas rentrer dans tous les exemples, parce que sinon on est là jusqu'à 19h, mais je dis juste les choses de manière générale. On a ça dans la Genèse, par exemple. Donc il y a un don initial et un commandement qui dit comment utiliser ce don, le mode d'emploi, j'allais dire, du cadeau. Et en même temps, dans la Bible, il est clair que toute loi donnée par Dieu, tout commandement donné par Dieu aux hommes est aussi un don. Il y a un don de la loi, hein, qu'on pense aux tables que Dieu donne à Moïse avec le décalogue. C'est un don, il y a le mot donné, hein, dans tout ça. Bon, je ne rentre pas encore une fois dans la justification de tout ce que je dis parce que ça prend des pages et des pages. Même si la loi, le commandement est un don, en tout cas c'est très clair dans la Bible, souvent, pour l'être humain, ça prend l'allure de l'épreuve et de la tentation. Et on voit aussi clairement dans la Bible que la loi a un but de pédagogue et qu'elle guide l'humanité vers le bien, suivant un chemin de liberté. Chez saint Paul, mais on voit ça aussi dans l'Exode, etc. Et donc la loi est vraiment un pédagogue, Dieu va éduquer l'être humain, tout comme les parents font l'éducation de leurs enfants. Ça, par exemple, dans le livre du Siracide. Et puis, quand on se penche sur l'étude du Décalogue, et par exemple sur la loi du sabbat, que ce soit dans les deux versions de l'Ancien Testament ou dans la reprise que fait Jésus de la loi du sabbat, on voit sur un exemple concret comment, dans la perspective biblique, la loi est source de liberté et plus encore de libération. Je prends juste un exemple, hein. Vous voyez Jésus avec le commandement du sabbat, alors qu'il pourrait faire le bien, on lui reproche parce qu'il n'a pas le droit de guérir, ça faisait partie des commandements qu'il y avait, on ne pouvait pas faire ça, et Jésus va faire sauter ça, rappelant que la loi est faite pour la liberté et pour le bien, et va justement guérir un jour du sabbat. Et on peut étudier précisément la loi dans le décalogue, le sabbat, et on voit que c'est toujours lié à la liberté. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails. Évidemment, avec la venue du Christ, la loi n'a pas été abolie, mais accomplie, et sa plénitude devient l'amour, la charité. La plénitude de la loi, c'est l'amour, dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Alors attention, il est clair dans la Bible que la liberté qui en découle ne doit pourtant pas être un prétexte pour s'abandonner à la licence ou au libertinage. L'enseignement de saint Paul et de saint Pierre est très net sur ce point. L'authentique liberté chrétienne, biblique, est une liberté en vue du bien. Donc voilà pour le rapport entre liberté et loi. La loi a un don qui va nous permettre de grandir en liberté dans l'amour. Si je prends le thème de la liberté et du bien et du mal, on pourrait dire la liberté et l'obéissance et la transgression ou la désobéissance. L'exemple paradigmatique, c'est le choix entre le bien et le mal qui est présenté au chapitre 3 de la Genèse, que vous avez sans doute en tête. Mais de manière plus générale, la Sainte Écriture exprime la responsabilité de l'être humain et donc sa liberté face au bien et au mal à travers ce qu'on appelle le schéma des deux voies que l'on peut analyser en détail dans toute la Bible à partir du texte du Deutéronome chapitre 30 versets 15 à 20. C'est le texte qu'on avait en première lecture jeudi dernier. Intéressant que ça soit en début de carême au passage. Donc voilà, choisis la vie, etc. Je mets devant toi la vie ou la mort, choisis donc la vie. Et le choisis donc la vie montre l'orientation vers le bien. Une autre figure importante au niveau de la liberté, de l'obéissance et de la transgression, c'est toute la figure du juste, qui montre, qui est l'exemple concret de l'homme libre dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et qu'il est possible de pratiquer librement le chemin vers le bien. Et puis le schéma des deux voies, il s'applique aussi de manière collective, pas juste personnelle, mais à tout le peuple d'Israël. Si l'expérience de la sortie d'Égypte demeure l'exemple par excellence de la liberté retrouvée après une situation d'esclavage, pour les prêtres, c'est ce qu'on est en train de lire au bréviaire, l'Exode. Cette sortie d'Égypte met néanmoins en lumière que le peuple hébreu a besoin d'une libération plus profonde. En effet, il continue à suivre la voie du mal, même après avoir été libéré de l'esclavage, hein, comme le manifeste avec éloquence l'épisode de l'idolâtrie du veau d'or, et comme tous les prophètes vont le dénoncer à l'envi. Enfin, dans l'Écriture sainte, la loi se veut un chemin vers le bonheur. Quand on étudie ce qu'on appelle la motivation des commandements, « fais ceci afin que, pour que ». Donc, quand on étudie ça en hébreu, etc., moi je me suis basé sur les études qui étaient faites, on voit qu'il y a, ça met en évidence la priorité du choix du bien sur le mal. Ce n'est pas symétrique la liberté dans la Bible, il y a toujours le choix du bien qui a la priorité sur le mal. Autrement dit, ça implique une liberté orientée vers le bien, une liberté pour. Et dans l'Ancien Testament, le bonheur lié à l'obéissance au commandement prend plutôt une forme terrestre. Et dans le Nouveau Testament, ça ouvre la perspective à une béatitude éternelle et au ciel. Il faudrait détailler, mais je ne peux pas maintenant. Dernier couple que je prends, liberté et salut. Donc je retiens que dans l'enseignement biblique, il y a la nécessité d'un salut et d'une véritable libération. C'est-à-dire que la vraie liberté au sens biblique, c'est la notion de salut. On voit déjà ça, par exemple, dans le livre des juges, où il y a tout un petit schéma qui se répète de manière cyclique. Ils suivent Dieu, puis s'en détachent, ils crient, ça va mal, on trouve un sauveur qui est la figure du juge, et ça repart. Et on a tout ça. Et c'est l'histoire de chaque être humain. Mais plus profondément encore, la libération dont a besoin l'être humain est celle de l'esclavage du diable, du péché et de la mort. Et c'est le Christ qui est venu l'apporter, hein, lui qui est l'unique sauveur. Ainsi, le Fils de Dieu apporte aux chrétiens la liberté de. Et le schéma biblique fondamental de la libre relation de l'homme à Dieu se résume alors ainsi. Dieu, en vue de la liberté et du bonheur des hommes, leur offre ses dons, dont la loi fait partie. Mais l'être humain, se laissant facilement tromper, tombe dans la désobéissance. À la place de la liberté et de la ressemblance avec Dieu qu'il espérait, l'homme fait alors l'expérience de l'esclavage du mal et du péché. Cependant, il ne faut jamais s'arrêter au péché, cependant, le Seigneur miséricordieux transforme ce mal en bien, en fait une épreuve pour que l'homme grandisse à travers le pardon et finalement soit sauvé, c'est-à-dire vraiment libéré. Et si on regarde au fond de notre conscience, on a un peu tous vécu ce mouvement-là. Enfin, on peut étudier le lien complexe entre la liberté et la grâce, qui montre que, c'est subtil ça aussi, qui montre que la libération c'est avant tout un don, c'est celui de la grâce, celui de la justification, pour parler comme saint Paul, et donc pas juste une simple obéissance à la loi. En définitive, au-delà d'une simple liberté de choix entre le bien et le mal, du type du motif des deux voies, la grâce de Dieu va donner aux hommes de pouvoir choisir le bien, seule expression véritable de la liberté, du moins au sens biblique. Alors je suis allé très vite sur la présentation de l'enseignement biblique sur la liberté, j'ai rien justifié, mais je vais quand même maintenant tenter de revenir sur la question fondamentale dont j'ai parlé plus haut. Est-ce que la liberté de qualité est en cohérence avec une théologie de la liberté conforme à l'Écriture ? Donc pour répondre à cette question, j'ai mené une étude comparée et détaillée hein, entre la liberté de qualité et l'enseignement biblique sur la liberté, en particulier d'après « Qu'est-ce que l'homme ?». Alors si vous m'avez suivi jusqu'à présent, vous avez dû voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui allaient bien ensemble entre ce que j'ai dit sur la liberté dans la Bible et la liberté de qualité. Donc d'après moi, ça je l'affirme, ça fait partie des choses que je défends dans mon doctorat, il faut se mouiller quand on fait un doctorat, d'après moi, la liberté de qualité est bien cohérente avec l'enseignement biblique sur la liberté, tel que l'a exposé « Qu'est-ce que l'homme ?» de la Commission biblique pontificale, et plus largement avec les nombreux auteurs sur lesquels je me suis basé au cours de mon doctorat. Plusieurs éléments sont en plein accord avec les grandes caractéristiques de la liberté de qualité, par exemple la vision biblique de la loi, son rapport à la liberté, on peut penser au sabbat, le lien entre loi et liberté, la loi qui se perfectionne dans la charité, qui exclut le libertinage, le cadre de l'alliance aussi, en grande cohérence avec la notion de liberté de qualité, ou encore le sens authentique de la vraie liberté comme libération apportée par le Christ, avec le don de la grâce et de l'Esprit Saint. Et même le schéma des deux voies. Mon directeur de thèse s'inquiétait au début en me disant « mais le schéma des deux voies, il colle pas très bien, parce que ça montre un choix du bien et du mal, ça sonne très liberté d'indifférence, quoi. » Et en fait, donc a priori plus proche de la liberté d'indifférence, ça harmonise en fait bien avec le concept de liberté de qualité, puisque ce schéma des deux voies n'est pas symétrique, ça, plusieurs exégètes l'ont montré, mais orienté pour un choix en vue de la vie et du bonheur. Encore une fois, si on reprend le texte de jeudi dernier, « Choisis donc la vie. » Il n'y a pas asymétrie entre le bien et le mal. Juste sur ce point, puis j'ai détaillé dans d'autres points. Donc arrivé à ce point, dans mon étude, quand je faisais ça à Rome, si toutes les caractéristiques de la liberté au sens biblique avaient une correspondance dans le cadre de la liberté de qualité, l'inverse n'était pas vrai. C'est-à-dire que j'avais certaines choses qui étaient des caractéristiques de la liberté de qualité que je n'arrivais pas à trouver dans le sens biblique, alors que tout ce que j'avais trouvé sur la liberté dans la Bible permettait d'éclairer et d'être en accord avec la liberté de qualité. En particulier des notions qui sont plus philosophiques et qui sont évidemment difficiles à trouver dans la Bible, comme la raison et la volonté dont je vous ai parlé, les passions, émotions, sentiments affectifs, etc., les inclinations naturelles, tout ça restait sans parallèle dans la conception biblique de la liberté. Et c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur la notion de cœur au sens biblique, dont j'avais l'intuition qu'elle permettait d'aller plus loin. Mais comme j'ai écrit ici, je vous expliquerai ça une autre fois, s'il plaît à Dieu. Donc j'en arrive à ma conclusion. Donc dans cette conférence, je vous ai présenté qui était le père Servet Theodor Pinkers et ce qu'est la conception de la liberté de qualité qu'il a forgée. J'ai tenté, bien trop vite, j'en ai conscience, de vous montrer la grande conformité qu'il y a entre la liberté de qualité et l'enseignement biblique sur la liberté. Et en fait, ce n'est qu'une partie de mon doctorat. Donc on va faire un petit teaser, je ne sais pas comment on dit exactement. Mais en réalité, j'ai étudié deux autres questions que je vous présente juste comme ça. La première concerne les racines anthropologiques de la liberté de qualité. En effet, d'après le père Pinkers, la liberté de qualité s'identifie avec la liberté selon saint Thomas d'Aquin. Et en fait, une telle identification n'apparaît pas du tout comme une évidence, en particulier quand le père Pinkers présente la liberté chez saint Thomas d'Aquin. Il y a plein de choses, on voit, c'est pas tout à fait pareil qui correspondent pas tout à fait avec les grandes caractéristiques de la liberté de qualité. Et donc, je me suis posé la question de savoir si la conception du libre arbitre chez saint Thomas d'Aquin et le concept de liberté de qualité étaient vraiment équivalents. Alors, c'est technique, c'est un peu compliqué, donc j'ai passé tout ça sous silence. Je voulais juste la conclusion à laquelle je suis arrivé, la liberté de qualité s'enracine dans l'anthropologie de saint Thomas, mais elle est un concept plus large que le simple libre arbitre au sens strict chez saint Thomas. Le second point que j'ai étudié, je l'ai évoqué il y a quelques instants, donc comme je vous l'ai dit, je me suis tourné vers la notion biblique de cœur pour approfondir les liens entre la liberté de qualité et la liberté au sens biblique. Ça pour moi, ça a été une vraie découverte. Ce qui était une intuition au départ, plus je lisais sur le cœur dans la Bible, plus je voyais que ça fonctionnait de manière un peu providentielle. Donc là encore, je vous livre simplement la conclusion à laquelle je suis parvenu et que je défends, à savoir que la liberté de qualité est en profonde harmonie avec la notion anthropologique biblique de cœur. Pour le dire en deux mots, tout ce qui est du vocabulaire philosophique comme raison, volonté, sentiment, etc., lien du bien et du mal, la conscience par exemple, tout ça, ça se retrouve de manière unie dans le mot cœur qui apparaît plus de 1000 fois dans la Bible. Ça apparaît dans le mot cœur qui permet de fusionner tout ça. Il y a tout un lien entre le cœur et la liberté. On lisait il n'y a pas très longtemps ça dans un exemple typique, Matthieu 19 et quelques, ou 15-19, je sais plus. Tout ce qui est, c'est ce qui vient du cœur, du cœur que procèdent les pensées mauvaises, etc. Voilà, et pas d'histoire d'extérieur. Bon, bref. Je parle pas de ça. Bon, néanmoins, et pour conclure, toute étude, même la plus poussée, ne pourra jamais rendre pleinement compte de ce qu'est la liberté. Liberté humaine et liberté divine, liberté humaine et grâce, libération apportée par le Christ et son éventuel refus, resteront toujours un mystère que l'on pourra sonder à l'infini. Mystère de notre condition de créature, mystère de notre existence et notre responsabilité aussi, hein, ça va avec la liberté. Mystère que vient visiter la grâce pour nous perfectionner et faire de nous des hommes et des femmes toujours plus libres grâce à l'action bienfaisante de l'Esprit-Saint et de ses dons grâce au Christ qui est l'unique libérateur. Mystère de grandeur et de la misère, et mystère de grandeur et de misère de la liberté humaine qu'a si bien décrit le père Pinkers dans un beau texte sur la liberté que je cite en guise de dernière réflexion. Donc je cite le père Pinkers. « Notre liberté paraît comme emmurée entre le double mystère de la naissance et de la mort. Pareil à une étincelle qui luit un instant entre deux zones de ténèbres. Telle est la condition de notre liberté, que nous finissons par douter d'elle quand nous y réfléchissons, par nous demander si elle n'est pas une pure illusion et si Shakespeare n'avait pas raison de traiter la vie humaine d'histoire de fou racontée par un idiot. Notre liberté est trop grande et trop fière pour se livrer à un autre qu'à Dieu. Mais aussi, elle est trop faible, trop enfoncée dans la chair et le sang pour être gagnée par qui ne connaîtrait pas notre condition. Telles sont la grandeur et la misère de la liberté humaine que seul un Dieu fait homme pouvait lui apprendre les chemins de la vraie liberté et devenir son libérateur. Il est, lui, plus grand que notre liberté et capable de l'ouvrir sur l'infini. Mais il s'est fait aussi plus petit que nous, afin de s'insinuer dans notre âme et de la séduire par son humilité même, lui prouvant qu'elle est entourée de toutes parts par l'amour de Dieu qui l'invite à la communion. » Et je vous remercie. Et voyez, le père Pinker s'écrit des choses très belles. Je vous invite vraiment. C'est assez simple de lire le père Pinker. C'est pas du tout un auteur. C'est pas du tout un auteur jargonnant. Il n'utilise pas du tout des mots compliqués. Il a des articles scientifiques, techniques sur l'acte humain, etc. Dans sa prime jeunesse, en particulier quand il était en Belgique. Mais c'est vraiment un auteur. Même un auteur spirituel. Hein. Il y a plusieurs livres. Il faisait des retraites spirituelles quand il était au Studium de la Sarthe entre 1965 et 1973. Tout ça a été regroupé dans des livres. Ça peut faire une très belle lecture de Carême, par exemple. Il y a des très belles choses spirituelles du père Pinkers. Et même le reste, même ses ouvrages de morale à proprement parler, comme les sources de la morale chrétienne, c'est des choses, bon, je ne dis pas qu'on lit ça pour se détendre, mais c'est des choses qui sont, c'est pas jargonnant. Ça lui a même été reproché que ses écrits n'étaient pas assez proches de saint Thomas. Certains dominicains, très thomistes, très versés dans les distinctions, etc., trouvaient que ce n'était pas assez technique. Et en fait, il avait, selon moi, ça c'est mon interprétation, mais une autre doctorante qui avait travaillé sur Pinkers, enfin qui est maintenant docteur, était parvenue avant moi à la même conclusion sur le thème de la volonté, moi, sur la liberté, avait dit qu'en fait, plus on connaissait saint Thomas, plus on voyait en fait que le père Pinkers l'avait intégré, digéré et était capable de le rendre à un public plus large, à ses étudiants en particulier, sans la technicité de, si on veut aller lire directement chez saint Thomas, c'est plus compliqué. Bon, je m'arrête de parler.
Une authentique liberté chrétienne et biblique, la liberté de qualité dans l'œuvre du père Servé Pinkers. Vous venez d'entendre la conférence de l'abbé François-Régis Jeannot, docteur en théologie morale, conférence enregistrée à l'abbaye de Belloc Habitat et Humanisme le 17 février 2024 dans le cadre des samedis de Belloc proposés par la communauté de Belloc et Radio Lapourdie. L'abbé François-Régis Jeannot a brillamment soutenu sa thèse en théologie morale au séminaire français de Rome en juin 2023.